Louisita, chapitre 6. Le dimanche suivant, l'arrivée à l'église du père Baudruse ne manqua pas d'attirer l'attention. Il ne cachait pas ses opinions, et les gens qui connaissaient ses habitudes se disaient « Ça n'est pourtant ni le Vendredi Saint, ni le jeûne fédéral, alors qu'est-ce que ça veut dire ?» Il avait amené sa nièce, qui se faufila dans les bancs des femmes, en faisant de son mieux pour passer inaperçue. Quand Louisita s'assit, sa voisine recula en retirant ses jupes d'un air pincé, avec un regard dédaigneux. Mais la jeune fille, dans sa robe grise, avec son fichu de laine brune, s'en aperçut à peine. C'était sans songer à mal qu'elle gardait son air de princesse en exil. Quant au père Baudruse, après avoir hésité un instant sur le seuil, comme un homme qui entre dans une maison où il n'est pas familier, il alla crânement s'asseoir au premier rang, pour bien montrer au pasteur qu'il tenait sa parole. À l'exemple des autres, il se recueillit d'abord, debout, penché en avant, le nez dans le fond de son chapeau. Puis il s'assit en relevant les pans de sa redingote et dévisagea paisiblement le syndic, qui le regardait avec des yeux grands comme les portes de l'église. Et pendant toute la durée du culte, il ne bougea pas plus que s'il avait été de bois. À peine bâilla-t-il 3 ou 4 fois pendant le sermon, qu'il n'écouta d'ailleurs que d'une oreille. Sans en avoir l'air, il suivait du coin de l'œil tous les mouvements du régent, qui semblait de bonne humeur en entonnant ses psaumes. Jamais il ne l'avait vu si bien attifé, en redingote noire, avec une épingle de cravate en or, une bague au petit doigt, les cheveux luisants de pommade, en sorte qu'il se disait en lui-même « ça ferait tout de même un joli couple ». Évidemment, le régent pensait à son affaire. Très agité, il frétillait devant son pupitre, au-dessous de la chaire, ouvrait et fermait son psautier, mettait la main devant ses yeux, comme pour les empêcher de courir toujours du même côté. À la sortie, il fut très vite hors du temple, se posta devant le porche, salua Louisita d'un grand coup de chapeau et s'approcha du père Baudruse. « Bonjour, monsieur Baudruse, comment allez-vous ? » « Très bien, monsieur le régent, je vous remercie. Et vous-même ? » Les hommes disaient, en clignant de l'œil, « Voilà le père Baudruse qui se raccommode avec le régent. » Réunis en petits groupes, les femmes et les jeunes filles bourdonnaient avec des mouvements de coudes et des rires pleins de malice. L'étonnement général augmenta quand on vit Louisita, après un bref colloque avec son oncle, reprendre seule le chemin de la ferme, sous les longs regards des garçons qui ne voyaient qu'elle. Puis le pasteur, en robe et en rabat, se dirigeait vers les deux hommes après avoir échangé une poignée de main avec le syndic. Cependant, bravant les candidats, le petit groupe se dirigea vers la cure. Une jolie maison carrée, aux murs clairs où grimpait une belle vigne vierge, aux volets peints à chevrons verts et blancs. De groupe en groupe, on constatait « Ils vont ensemble !»« Pourquoi ?» Et les imaginations s'échauffaient dans le vide. Au coup de sonnette du pasteur, une petite bonne à corte, en tablier blanc, vint ouvrir. Deux enfants s'enfuirent dans l'escalier. Comme le père Baudruse ne finissait pas de s'essuyer les pieds sur un beau paillasson neuf, le pasteur dit « Entrez, monsieur, entrez donc !» Il avait ôté sa robe et son rabat, et montré du geste son salon bien chauffé, décoré de gravures illustrant des sujets bibliques, de belles lampes à tiges, de vases en porcelaine que garnissaient des touffes séchées de monnaie du pape. « Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie, sans façon, voici des fauteuils. Vous accepterez bien un verre de vermouth. » Le père Baudruse dissimula une grimace. Il n'appréciait guère cette drogue-là, fabriquée avec des ingrédients inconnus, et n'admettait pas qu'à quelque heure du jour on pût boire autre chose que du vin blanc, qui ouvre l'estomac avant le repas, facilite la digestion et ne fait jamais de mal à personne, à la condition qu'on n'en abuse pas. Mais il savait que les gens comme il faut ne prennent guère de vin le matin. Il se résigna en se disant « des bêtises ». D'ailleurs, l'apéritif attendait sur la table, avec les verres, préparés à l'avance, que le pasteur remplit. « À votre bonne santé, messieurs !»«
À la vôtre, monsieur le pasteur !»
Le pasteur ne fit que tremper ses lèvres dans son verre. Le père Baudru s'essuya la bouche du revers de la main. Le régent dit « Il est bon !» Là-dessus, il y eut un instant de recueillement. Puis le pasteur ouvrit l'entretien. « Eh bien, monsieur Baudruse, j'ai parlé à monsieur le régent, comme je vous l'avais dit. À la suite de cette conversation préparatoire, j'ai pensé qu'il valait mieux que vous vous entendissiez ensemble. C'est pour cela que j'ai ménagé cette petite rencontre. Si je suis de trop... » Il fit le geste de se lever de son fauteuil. Le régent étendit la main pour le retenir. Le père Baudruse répondit « Non, non, monsieur le pasteur, au contraire !» Dans son fort intérieur, il trouvait ce début trop rapide. Accoutumé à négocier, avec ruse et précaution, l'achat d'un cheval, la vente d'une génisse ou le prix du litre avant les vendanges, il s'étonnait de ne pas trouver à placer ses finasseries habituelles, et il regardait l'un après l'autre ses deux interlocuteurs en homme qui ne comprend pas bien. « Je crois, lui dit le pasteur, que vous vous entendrez sans peine avec monsieur le régent. » Le père Baudruse toussa, se moucha, finit par répondre « Quant à moi, je ne demande pas mieux. » Aussitôt, le régent prit la parole, allant droit au but. « Moi de même, monsieur Baudruse, si ça ne dépendait que de moi, puisque vous donnez votre consentement, nous serions bien vite d'accord. Mais il faut aussi que votre nièce veuille bien. J'ai peur que les obstacles ne viennent d'elle. »
« Les obstacles ? Les obstacles ?» grogna le père Baudruse, qui n'en soupçonnait pas d'autre que le manque de dot. « Lesquels est-ce que vous pensez ?
Peut-être que je ne suis pas de son goût, qu'elle a des ambitions plus hautes. Je ne sais pas, moi. » Le père Baudruche le toisa de son œil connaisseur.
« Des ambitions plus hautes ? Un prince, alors ? Et pourquoi ne lui plairiez-vous pas ? Vous êtes assez joli garçon. »
Le régent ne répondit qu'en arrangeant sa cravate et en tordant sa moustache, ce qui fit étinceler la bague qu'il portait au petit doigt.
« Les jeunes filles sont parfois capricieuses, » dit le pasteur.
Le père Baudruse fixa sur lui ses yeux en vrille, amena à la hauteur du nez sa grosse main tannée, les deux derniers doigts repliés sur le pouce, la balança un instant et dit
« C'est sûr qu'il faut consulter la petite, et qu'elle a son mot à dire. Mais après ceux de qui ça dépend, après ceux qui ont l'autorité, et moi, vous savez, je remplace son père. »
« Oh ! » s'écria le régent, « je ne veux pas qu'on la force. » Le vieux paysan haussa les épaules.
« Il n'y aura pas besoin. Voyez-vous, elle n'est pas tant heureuse chez nous, par rapport à sa cousine surtout, car, soit dit sans malice, ma belle-fille a un fichu caractère. Pas méchant, non, je ne dis pas ça, mais un fichu caractère, quoi. »
« Il est difficile que deux femmes s'entendent dans la même maison, » dit le pasteur. Le père Baudruse, craignant que le régent ne fût mis en méfiance par cette parole imprudente, se hâta d'ajouter « Oh, ça n'est pas la faute à la petite, allez, elle est douce comme une brebis et se laisserait tondre la laine sur le dos. C'est l'autre qui fait des histoires. » Le régent se balançait sur sa chaise. Mieux que personne, il savait que Julie avait des raisons pour bouder sa cousine, et il pensait, non sans une satisfaction malicieuse, à la fureur de cette brute de pierre, quand, l'affaire arrangée,
il rentrerait en triomphe à la ferme. « Enfin, monsieur Baudruse, dit-il, si vous me permettez d'aller chez vous et de parler à votre nièce, moi je suis prêt, quand vous voudrez. » Jamais le père Baudruse n'aurait cru que ça marcherait si vite sans qu'il fût question d'argent. Même, il trouva que ça marchait trop vite, car une inquiétude lui restait. Il voyait Pierre, pris de fureur, sauter sur le régent comme au jour de la bataille. C'était là un dernier danger qu'on ne pouvait prévenir qu'avec un peu de temps et de prudence. Il dit « Eh bien, monsieur le régent, si vous voulez venir dimanche prochain, pour le café à l'eau, on vous recevra bien. D'ici là, motus, pas ?» Le régent demanda « Pourquoi pas aujourd'hui, monsieur Baudruse ?» Ravi de cette hâte, le vieux paysan éclata de rire en regardant le pasteur. « Est-il assez pressé ? Hein, monsieur le pasteur ? C'est tout jeune, ça ne sait pas attendre. Le feu n'est pas à la maison, que diable !» Le pasteur rit aussi, le régent de même, bien qu'un peu déconfit. « Comme vous voudrez, monsieur Baudruse, » conclut-il. Et ils finirent leur vermouth. Chapitre 7. Le père Baudruse reprit le chemin de la ferme, tout content de la tournure que prenaient les choses, un peu étonné seulement de la facilité des négociations et du désintéressement du régent. « Faut-il qu'il en tienne ?» se répétait-il en faisant sonner ses souliers ferrés sur la neige de la grande route, blanche entre les haies blanches et les squelettes blancs des arbres. Il pensait aussi que les jeunes gens sont bien fous de se mettre en scie la tête à l'envers pour un cotillon, comme si tous les cotillons ne se valaient pas. Cette idée, sur laquelle il s'arrêta, finit par mêler une nuance d'inquiétude à son contentement. Pour sûr, Pierre était encore plus fou que le régent, malgré sa femme et l'enfant qu'il attendait. Et Gaspard aussi, peut-être, avec son air innocent et ses mines larmoyantes. Comment donc prendrait-il l'affaire ? Bah, cela s'arrangerait comme le reste. Depuis qu'ils étaient au monde, ses fils lui obéissaient à la baguette. Ils obéiraient bien encore cette fois. Avec Gaspard, ça marcherait tout seul. Et Pierre finirait par entendre raison. Quant à la petite, qui ne possédait que sa chemise, elle pouvait s'estimer heureuse de trouver un brave homme pour la prendre comme elle était. Comme il approchait de la maison, il la vit justement, qui portait la pâtée à Turc. Le Saint-Bernard, secouant sa lourde chaîne, ébranlait sa niche, se battait les flancs de sa queue en panache, sautait contre elle avec des grognements de joie, promenait sa grosse langue rouge sur les petites mains qui soutenaient la jatte, si bien que Louisita faillit être renversée et qu'elle criait en riant « Ah bah, Turc, c'est bon, c'est bon !» Même les chiens, songea le vieux en s'arrêtant. « Qu'est-ce que diable elle a donc pour les ensorceler tous, bêtes et gens ?» Ce rapprochement le fit sourire en dedans. D'autant plus que Turc détestait Julie, grognait et montrait les dents, la queue entre les jambes, dès qu'elle voulait l'approcher. Ce qui prouve que les animaux ont leur sympathie, comme les personnes. Le père Baudruse se dit encore « Comment faudra-t-il s'y prendre pour leur expliquer la chose ?» Et il résolut d'attendre le soir, en tâchant de garder Pierre à jeun. « Nous serons tous là, en famille, ils n'oseront rien dire. » Lorsqu'on veillait ensemble, Louisita partait presque toujours la première, de bonne heure. Elle aimait la solitude de sa chambre, ou du moins elle ne sentait peser sur elle ni la haine de sa cousine, ni le désir farouche de Pierre. Comme Julie, qui gardait les clés des armoires, ne manquait jamais de lui reprocher les chandelles qu'elle brûlait, elle se couchait et restait longtemps éveillée, arrivée à des choses vagues dans l'obscurité. Ce soir-là,
Presque tout de suite après le souper, elle souhaita le bonsoir à la famille, groupée autour de la cheminée. Pierre et Gaspard la suivirent du coin de l'œil, chacun rentrant son soupir. Julie, enfoncée dans ses réflexions, ne répondit rien. Le père Baudruche lui dit d'un ton paternel « Tu es fatiguée, petite ? Tant mieux, tu dormiras bien. » Les trois hommes, oisifs, fumaient leur bout de granzon, les pieds au chenet. Derrière eux, Julie se mit à repriser des bas devant la table. On eût oublié sa présence sans le bruit sec des ciseaux qui, de temps en temps, coupaient la laine. Les pas légers de Luisita s'éloignèrent dans l'escalier. On entendit sa porte se fermer, sa clé grincer dans la serrure, ses souliers résonner sur le plancher, le son mat de ses pieds nus. Pierre, l'oreille tendue, guettait ces petits bruits, oppressé, fumant à grandes bouffées, la tête en feu. Gaspard poussa un gros soupir. Le père Baudruche secoua la cendre de son bout de cigare et commença. « À propos, j'ai une chose à vous dire, qui est une bonne chose. J'ai vu le régent aujourd'hui. » Pierre fronça les sourcils. « Et il m'a demandé de venir ici, pour fréquenter la petite qu'il a envie de marier. » On eût entendu voler une mouche, tant le silence restait attentif. Il passa dans l'air quelque chose de si menaçant que le vieux se sentit tout à coup moins sûr de lui. Il continua pourtant sans regarder personne. « C'est un beau parti pour elle, qui n'a pas le sou, et qui n'est pas faite pour des paysans. Le régent a de quoi, c'est presque un monsieur. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que ça vous fera plaisir aussi. » Julie, l'aiguille en l'air, le visage en avant, fixait sur son mari des yeux qui fouillaient jusqu'à l'âme. Pierre n'y prit pas garde et s'écria sourdement « Mille tonnerres !» Aussitôt, le père Baudru se tourna vers lui, le regarda bien en face et lui dit de sa voix de commandement « J'espère que tu ne vas pas faire d'histoire, toi, hein ? Ce qui est passé est passé. Tu t'es battu avec lui, ça n'est pas une raison pour que ta cousine reste fille. » Pierre lança dans le feu son reste de cigare et gronda. « C'est-à-dire que, si ce freluquet met les pieds par ici, je lui casse les reins, aussi vrai que je suis là. » Le vieux redressa sa tête despotique et dit en pensant ces mots « Je voudrais bien voir ça. Dis donc un peu, qui est-ce qui est le maître, ici ?» Pierre se tourna lourdement sur sa chaise et, sans regarder son père, répliqua « Il ne s'agit pas de savoir qui est le maître ou qui ne l'est pas. Je dis que, si je rencontre le régent par chez nous, je l'assomme. Voilà tout. » « Crénom !» jura le père Baudruche. Mais au lieu d'éclater, comme les autres s'y attendaient, il se contint et dit d'une voix tranquille, un peu gouailleuse, « Tu as la rancune tenace, mon garçon. Il faudra pourtant bien que tu en prennes ton parti. Moi, je pense aux intérêts de la petite, tu comprends? J'ai promis au régent la réponse pour dimanche. Je lui dirai oui. Tu as jusqu'à dimanche pour te calmer. » Il feignait d'ignorer ce qui se passait dans l'âme de son fils, le vieux finot, comme il oubliait l'état de ses génisses au moment de les vendre. Pierre, penché en avant sur sa chaise, riposta en frappant son gros poing sur son genou. « On verra ça !» Il se leva, en soufflant comme un taureau, fit deux ou trois fois le tour de la cuisine, puis finit par sortir dans la campagne noire. Une bouffée d'air glacial entra par la porte qu'il négligea de fermer. Le père Baudruche alla la pousser et revint en murmurant « Un froid de loup !» Gaspard, immobile comme une statue, n'avait encore rien dit. Julie, muette aussi, fixait sur la fenêtre close ses yeux sombres qui semblaient suivre Pierre dehors, dans la nuit. Il y eut un long silence. Le père Baudruche songea,
ça n'est pas encore fini. À l'autre à présent. En effet, Gaspard commença. Père, il faut que je vous dise une chose. Très ému, il hésitait, cherchait ses mots, réussissait mal à assurer sa voix. C'est que, si vous voulez marier ma cousine, eh bien, je suis là, moi.
Nom de nom de nom !
Grommela le père Baudruse en levant ses deux bras qu'il laissa retomber aussitôt. L'aveu étant fait, Gaspard retrouvait son courage. Il répéta, plus résolument,
« Oui, je suis là, moi aussi, comme le régent. Est-ce que je ne le vaux pas ? Et voyez-vous, père, si je n'ai pas celle-là, je n'en voudrai jamais une autre. Ça, j'en suis sûr. Et je serai malheureux toute ma vie. C'est pour ça que je vous demande de me la donner. »
Le père Baudruse prit les pincettes, tisonna le feu, fit jaillir des gerbes d'étincelles, les regarda disparaître en s'éteignant dans le trou noir de la cheminée, le front barré d'une ride inquiète, hochant la tête d'un air de réfléchir, comme s'il pesait le pour et le contre de la demande de son fils. Enfin, il commença sans l'achever son geste habituel. Sa main ouverte se balança un instant devant son menton. Il dit « Avec toi, au moins, on peut causer. Tu as du bon sens. Tu n'as pas une tête à l'évent, comme ton frère. » Il décrocha un regard du côté de sa bru qui ne broncha pas. « Voyons, écoute voir. On ne se jette pas en avant comme un écervelé sans savoir ce qu'on fait. On réfléchit, on calcule. Elle n'a pas le sou, ta cousine. Elle n'a rien que la chemise qu'elle a sur le corps. » C'était un premier argument qui ne pouvait porter.
« Qu'est-ce que ça fait ? » dit Gaspard.
« Le régent la prendrait bien comme ça. »
« Son père est mort. Je n'en veux pas mal parler. Mais enfin, c'était un coureur, un aventurier. » On n'a jamais pu savoir ce que c'était que sa mère. Tu vois bien qu'elle n'est pas une fille comme les nôtres. Elle n'est pas du pays. Les gens ne se trompent pas quand ils l'appellent l'Espagnole. Elle ne peut pas travailler à la campagne. Malgré sa bonne volonté, elle n'est pas faite pour notre vie. »
Gaspard écoutait avec respect le chapelet de ses bonnes raisons. Comme son père se taisait, il répondit avec une tranquille obstination.
C'est vrai qu'elle ne peut pas aller au champ comme nous. Eh bien, je travaillerai pour deux, avec le courage qu'elle me donnera.
On dit que les mariages entre cousins germains ne réussissent pas.
Oh, ça, c'est des on dit.
Le père Baudruse se gratta le menton, se balança sur sa chaise, regarda du côté de Julie, toujours immobile et les yeux fuyants.
« Et puis, ça n'est pas encore tout. Quand elle sera mariée avec le régent, elle s'en ira du village. Et ça vaudra mieux pour nous, puisqu'elle tourne la tête à tout le monde. »
Des larmes montèrent aux yeux de Gaspard.
« Eh bien, déclara-t-il, si elle part, si on la donne à un autre, j'irai plutôt me jeter dans l'étang. Voilà. »
Il dit cela tranquillement, posément, d'une voix qui se mit à trembler vers la fin, avec une décision calme. Après quoi, il se tassa sur lui-même, le dos plié, comme s'il attendait des coups. Mais le père Baudruse ne pensait guère à se fâcher. Il regardait son fils d'un air ahuri, comme quelqu'un qui vient de vous parler une langue étrangère. Au lieu d'être en colère, il était inquiet, comprenant vaguement que l'affaire ne s'arrangeait pas, qu'elle était beaucoup plus difficile qu'il ne l'aurait cru, qu'elle traînerait et se compliquerait comme un marché qui rate.
« Ces choses-là, fit-il, il y a des fous qui les disent. Mais toi, un garçon sensé, qu'est-ce qui te passe donc par la tête ?»
Puis, se tournant vers Julie, qui ne bougeait pas.
« Quelles sacrées histoires à dormir debout ils font tout autour de ce cotillon-là. Ils veulent, ils ne veulent pas, comme si c'était eux les maîtres.
Quand j'arrange les choses, il se rebiffe et parle de casser les reins aux gens ou de se ficher à l'eau. A-t-on jamais vu rien de pareil, dis ? Peux-tu comprendre, toi ?
Julie ne répondit que par un geste dédaigneux, haussant les épaules et plissant ses lèvres minces, avec un regard en l'air qui dut traverser le plafond pour aller piquer sa cousine. Le père Baudruse reprit d'une voix plus grondeuse.
« Si ça continue, je renvoie la petite là-bas, d'où elle vient. Ceux qui la voudront pourront lui courir après. En attendant, je veux qu'on me foute la paix et qu'on fasse ce que je dis. »
Il se leva de sa chaise, croisa les bras sur sa poitrine, regarda un moment Gaspard comme pour lui inculquer sa volonté et conclut
« Je vais me coucher, moi. Tâche voir de réfléchir et ne fais pas le nigo. »
Chapitre 8. La nuit, qui porte conseil, n'en apporta aucun au père Baudruse. Et le lendemain, tout en s'occupant de ses affaires, il continua à rouler dans sa tête l'histoire à dormir debout, dont il pressentait obscurément la gravité. Mais son esprit, retors dans les choses usuelles, demeurait ici sans ressources et battait en vain la campagne. Justement, il faisait un froid terrible, la neige grésillait sous les pas comme du verre pilé. Sur un ciel d'un bleu intense, les collines de la côte, la ligne lointaine du Jura, les pans déchirés des Alpes se dessinaient en blancheurs éblouissantes, et l'on eût dit que le soleil faisait sortir du froid de ces amoncellements de neige. Louisita, la figure violette, grelottait dans son fichu brun, un peu moins joli que de coutume. En la voyant aller et venir dans la cour, avec des mouvements de chatte frileuse qui a peur de sortir, le père Baudruse songeait « Même le froid ne les arrête pas. Alors qu'est-ce qu'ils feront au printemps ?» Car il avait l'habitude de prévoir l'avenir de très loin, en vrai paysan qui connaît la puissance du temps. Et il ne se doutait pas que la fin de l'histoire était proche, qu'il n'aurait pas la peine d'aller trouver le régent pour l'empêcher de venir se faire casser les reins par le terrible Pierre, et qu'au printemps, tout serait terminé. C'est souvent ainsi dans la vie. On regarde loin devant soi, vers les surlendemains ignorés, et la destinée est là, la main sur nous. Le mardi matin, on s'aperçut que la Blanche était un peu malade. Le père Baudruse dit « On ne sait pas ce qu'a la jument. Il faudra voir à l'amener aujourd'hui chez le vétérinaire. » Il réfléchit et ajouta « Pour éviter une autre course, on pourrait en même temps passer chez le tonnelier, voir s'il a remis la douve au grand ovale. » Pierre aussitôt proposa « J'irai, moi, si on veut. » Son père lui recommanda de se dépêcher. « Surtout, sois rentré pour midi. On a de l'ouvrage, ce tantôt. » Le garçon marmonna quelque chose et partit avec la bête. À midi, il n'était pas rentré. On se mit à table sans lui. Tous pensèrent qu'il s'attardait avec des camarades et qu'il ne reviendrait pas à jeun. La mine sombre de Julie exprimait bien cette crainte-là, mais on évita d'en parler. Après le repas, chacun s'en alla à ses affaires. Le père Baudruse monta au village avec sa bru qui voulait se faire arranger une robe par la tailleuse. Gaspard resta seul avec sa cousine. Il s'était bien promis de s'expliquer avec elle à la première occasion. Mais, quoique l'occasion fût bonne, il n'osa pas en profiter. Et il se contenta de parler de la pluie et du beau temps, comme s'il n'avait pas eu ce gros souci du régent qui lui rongeait de cœur. Puis il la quitta pour s'occuper du bétail, au moment où elle se mettait à éplucher des pommes de terre pour la soupe du soir. Vers le jour tombant, Pierre rentra enfin, à pied, ayant dû laisser en ville la Blanche, plus malade qu'on ne le croyait. Il avait fait des stations dans toutes les auberges du chemin, car il avait la tête en feu, les yeux brillants, la langue épaisse. Saisi par la chaleur de la cuisine, il s'arrêta sur le seuil, distingua sa cousine dans la pénombre et dit « Me voilà, c'est moi ». Elle leva les yeux sur lui sans interrompre sa besogne. Il reprit en faisant un pas « Alors, tu es seule ?» La jeune fille répondit sans méfiance « Oui, ils sont tous sortis. » « Le père est au village ?»«
Je crois que oui. »
« Il est allé parler au régent ?» Ignorant les négociations ouvertes à ce sujet, Louisita ne comprit pas le sens de cette question.
« Je n'en sais rien, » dit-elle.
Il se rapprocha d'elle en ricanant. « Ah, tu n'en sais rien. Moi, je suis sûr que tu sais. » Elle haussa légèrement les épaules. Il continua.
« J'en suis sûr, je te dis. Pardine, vous vous entendez tous pour me mettre dedans. Tous. Le père, ma femme, Gaspard, toi la première. Vous croyez que je n'y vois goutte. Pas si bête, moi, tu sais. J'ai des yeux pour m'en servir. Et c'est comme je l'ai dit au père. Je ne veux pas. »
Il frappa du pied sur le sol. « Je ne veux pas qu'on te donne au régent. » Il élevait la voix, les yeux chargés de menaces, tout près d'elle, qui balbutia en s'effrayant.
« Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
Il poursuivit plus violemment.
« Ni au régent, ni à personne. À personne, entendu ? À personne, entends-tu ? À personne. Parce que... »
Sa langue pâteuse traînait sur les mots qu'il répétait avec effort.
« Parce que je te veux pour moi. »
Il avança sa lourde main vers Louisita, qui d'un bond fut hors de portée, derrière la table, où elle jeta ses pommes de terre et son contenu.
« Ah, tu veux te sauver ? Attends voir ! Attends ! Comme si on voulait te faire du mal ! Du mal ! Non, non, je... »
Haletant, il la poursuivait, les mains tendues. Elle calcula qu'elle ne pouvait gagner la porte et l'ouvrir sans être atteinte, et elle tournait autour de la grande table carrée, affolée de sentir sur elle l'haleine brutale de son cousin, parfois effleurée par les grosses mains tâtonnantes et frissonnant toutes.
Pierre répétait « Ah, tu ne veux pas ? Si c'était le régent ou Gaspard, tu ne te sauverais pas, comme ça ? Mais attends !» « Attends voir que je te tienne !»
Elle balbutiait en fuyant.
« Mais, mon cousin ! Mais... »
Furieux d'être déçu, Pierre, chaque fois qu'il ramenait à soi ses grosses mains vides, comme s'il eût embrassé du vent, lui criait des injures. Toujours plus vite, excité par sa chasse, il tournait derrière elle. Éperdue, Louisita cria
« Au secours ! Au secours !»
Ses forces la trahissaient, elle défaillait de peur. La lourde main s'abattit sur sa nuque, l'haleine avinée souffla dans sa bouche, tandis qu'elle raidissait ses membres frêles. Et Gaspard apparut sur le seuil. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, Pierre lâcha sa proie. Dans le demi-jour de la cuisine, il vit son frère, pâle, les poings serrés, les lèvres crispées, s'avancer contre lui. Il gronda.
« Toi, d'abord, toi, mêle-toi de tes affaires, ou... »«
Ou ?» demanda Gaspard en avançant toujours. Un instant, ils restèrent en face l'un de l'autre, à se défier de leurs yeux chargés de haine. Puis Gaspard, le plus sage, et qui n'était pas ivre, essaya de parler.
« N'as-tu pas honte, toi, toi qui es marié, qui vas avoir un enfant ?»
Pierre répondit sourdement
« Tout ça m'est égal, je la veux !»«
Bandit !» cria Gaspard. Et Pierre, hors de lui,
« Je la veux, je l'aurai !»«
Jamais de la vie, je la défendrai !»«
Toi ? Ah, oh, mais !»
Alors, il se passa quelque chose de terrible, et si vite que Louisita, qui tremblait dans un coin, ne put jamais raconter comment c'était arrivé. Elle vit Pierre se pencher sur la table, lever sa main où brillait une lame et l'abattre sur Gaspard, qui tomba comme une masse, sans un cri.
Deux heures plus tard, les gendarmes vinrent chercher Pierre. Il n'avait pas fait un mouvement depuis que son frère était mort, et se laissa emmener sans plus résister qu'un mouton, les jambes molles, le corps vacillant. Et puis il y eut l'enquête, les constatations, les interrogatoires, l'autopsie, toutes sortes de formalités qui n'en finissaient pas. Le lendemain de l'enterrement de Gaspard, on s'aperçut que Louisita avait disparu. Personne ne s'en inquiéta. Pendant longtemps, on n'entendit plus parler d'elle. Quelques années plus tard seulement, le régent, qui s'était marié, trouva son nom dans un journal étranger. Elle était au loin, dans une grande ville, où des hommes se tuaient pour elle.